Chapitre 19. Israël au pied de la montagne de Sinaï. L'alliance de la grâce. Nous voici arrivés à une période fort importante de l'histoire d'Israël. Le peuple a été amené au pied de la montagne qui peut être touchée et au feu brûlant. Hébreux 12, verset 18. La scène de gloire millénaire que nous a présentée le chapitre précédent a disparu. Cette image du royaume, éclairée un moment par le soleil, fait place maintenant aux épais nuages qui vont s'amoncelant autour de la montagne de Sinaï. Israël, poussé par un esprit de légalisme, aveugle et insensé, va abandonner l'alliance de grâce de l'Éternel pour l'alliance des œuvres de l'homme. Mouvement fatal, qui sera suivi des résultats les plus désastreux. Jusqu'ici, nous l'avons vu, aucun ennemi n'avait pu subsister devant Israël. Nul obstacle n'avait pu arrêter sa marche victorieuse. Les armées du Pharaon avaient été détruites. Amalek et les siens avaient été passés au fil de l'épée. Tout avait été victoire, car Dieu intervenait en faveur de son peuple en vertu des promesses qu'il avait faites à Abraham, Isaac et Jacob. Au début de notre chapitre, l'Éternel résume d'une manière touchante ce qu'il a fait pour Israël. Tu diras ainsi à la maison de Jacob, et tu l'annonceras aux fils d'Israël. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte, et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et vous ai amené à moi. Et maintenant, si vous écoutez attentivement ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez en propre d'entre tous les peuples, car toute la terre est à moi, et vous me serez un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Versets 3 à 6. Remarquez que l'Éternel dit « ma voix » et « mon alliance ». Or, que disait cette voix? Et qu'est-ce qu'impliquait cette alliance? Dieu avait-il parlé pour imposer les lois et les ordonnances d'un législateur sévère et inflexible? Bien au contraire, il était intervenu pour demander la liberté des captifs, pour leur procurer un refuge devant le glaive du destructeur, pour préparer un chemin à ses rachetés, pour faire descendre le pain du ciel et pour faire jaillir l'eau du rocher. C'est de cette manière que la voix de l'Éternel, intelligible et pleine de grâce, avait parlé, jusqu'au moment où Israël se tint au pied de la montagne. Verset 17. L'alliance de l'Éternel était une alliance de pure grâce. Elle ne posait aucune condition, ne demandait rien, n'imposait ni joug ni fardeau. Quand le Dieu de gloire apparut à Abraham, Acte 7, verset 2, à Ur des Chaldéens, il ne s'adressa certainement pas à Abraham en lui disant « Tu feras ceci et tu ne feras pas cela ». Non, un pareil langage n'aurait pas été selon le cœur de Dieu. Il aime bien mieux mettre une tiare pure sur la tête du pécheur qu'un joug de fer sur son cou. Zacharie 3, verset 5, Deutéronome 28, verset 48. Sa parole à Abraham fut « Je te donnerai ». La terre de Canaan ne pouvait être acquise par des œuvres d'homme, elle ne pouvait être que le don de la grâce de Dieu. Au commencement de ce livre de l'Exode, nous voyons Dieu visiter son peuple, dans sa grâce, pour accomplir la promesse qu'il avait faite en faveur de la postérité d'Abraham. L'état dans lequel l'Éternel trouva cette postérité ne mettait pas obstacle à l'accomplissement de ses desseins de grâce, car le sang de l'agneau lui fournissait un fondement parfaitement juste, en vertu duquel il pouvait accomplir ce qu'il avait promis. Évidemment, l'Éternel n'avait pas promis la terre de Canaan à la postérité d'Abraham en vertu de quoi que ce soit qu'il ait attendu d'elle. Cela aurait détruit complètement la vraie nature d'une promesse. Dieu aurait fait un contrat, non une promesse. Mais Dieu a fait le don à Abraham par promesse et non par un contrat réciproque. Voyez Galates 3. C'est pourquoi, au commencement de ce chapitre, l'Éternel rappelle à son peuple la grâce dont il a usé jusqu'ici envers lui. En même temps, il l'assure de ce qu'il sera encore maintenant, pourvu qu'il persévère dans l'obéissance à la voix de la grâce d'en haut et qu'il demeure dans l'alliance de grâce. « Vous m'appartiendrez en propre, leur dit-il, d'entre tous les peuples. » À quelles conditions les Israélites pouvaient-ils être cette précieuse propriété de l'Éternel ? Était-ce en montant péniblement le chemin de la propre justice et du légalisme? Les malédictions d'une loi violée, violée avant même qu'ils l'aient reçue, pouvaient-elles les amener là? Non, assurément. Comment donc pouvait-il jouir de cette position glorieuse? Simplement en demeurant dans la position dans laquelle l'Éternel les voyait du ciel lorsqu'il obligea Balaam à s'écrier « Que tes tentes sont belles, ô Jacob, et tes demeures, ô Israël, comme des vallées elles s'étendent, comme des jardins auprès d'un fleuve, comme des arbres d'aloès que l'Éternel a plantés, comme des cèdres auprès des eaux. Dieu l'a fait sortir d'Égypte, il l'a comme la force des buffles. » Nombre 24, versets 5 à 8. Un engagement présomptueux. Toutefois, Israël n'était pas disposé à occuper cette heureuse position. Au lieu de se réjouir dans la sainte promesse de Dieu, il osa prendre un engagement présomptueux. Et tout le peuple ensemble répondit et dit « Tout ce que l'Éternel a dit, nous le ferons. » Verset 8. C'était parler témérairement. Les Israélites ne disent pas même « nous espérons faire » ou « nous tâcherons de faire », langage qui aurait montré chez eux un certain degré de méfiance d'eux-mêmes. Ils se prononcent de la manière la plus absolue « nous ferons ». Ceux qui parlaient ainsi n'étaient pas seulement quelques esprits vaniteux, pleins de confiance en eux-mêmes, qui se distinguaient du reste de l'assemblée. Non, tout le peuple ensemble répondit. Quel en est le résultat? Dès le moment où Israël entreprit de faire, les choses changèrent complètement d'aspect. Et l'Éternel dit à Moïse, « Voici, je viendrai à toi dans l'obscurité d'une nuée. Et tu mettras des bornes pour le peuple alentour, disant, « Donnez-vous garde de monter sur la montagne et d'en toucher l'extrémité. Quiconque touchera la montagne sera certainement mis à mort. » Versets 9 à 12. C'était là un changement manifeste. Celui qui avait dit « Je vous ai porté sur des ailes d'aigle et vous ai amené à moi » s'enveloppe maintenant dans l'obscurité d'une nuée et dit « Tu mettras des bornes pour le peuple alentour. » Les 12 accents de la grâce ont fait place au tonnerre et aux éclairs de la montagne en feu. Verset 16. L'homme avait osé parler de ses misérables œuvres en présence de la grâce magnifique de Dieu. Israël avait dit « Nous voulons faire, et il faut qu'il soit placé à distance, afin que l'on voit ce qu'il est en état de faire. » Dieu prend une position de distance morale, et le peuple n'est que trop disposé à s'en arranger, car il était rempli de frayeur et de crainte. Nous ne devons pas nous en étonner, car ce qu'il voyait était terrible, si terrible que Moïse dit « Je suis épouvanté et tout tremblant. » Hébreux 12, verset 21. Qui aurait pu supporter la vue de ce feu consumant? Juste expression de la sainteté divine. L'Éternel est venu de Sinaï, et il s'est levé pour eux de Séhir. Il a resplendi de la montagne de Paran, et est venu des saintes myriades. De sa droite sortit une loi de feu pour eux. Deutéronome 33, verset 2. L'expression « de feu » appliquée à la loi exprime la sainteté de cette loi. Notre Dieu est un feu consumant. Hébreux 12, verset 29. Qui ne tolère le mal ni en pensée, ni en parole, ni en action. Israël commit donc une grave erreur en disant « nous ferons ». C'était prendre un engagement qu'il n'était pas capable de tenir. Il est écrit « mieux vaut que tu ne fasses point de vœux que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. » Ecclésiaste 5, verset 5. La nature même d'un vœu implique la capacité de l'accomplir, et quelle est la capacité de l'homme? Un homme en faillite pourrait aussi bien faire un bond sur la banque qu'un pêcheur sans force faire un vœu. Celui qui fait un vœu nie la vérité quant à sa nature et à sa condition. Il est ruiné, que peut-il faire? Privé de toute force, il ne peut ni vouloir, ni faire quoi que ce soit de bon. Israël a-t-il tenu son engagement? A-t-il fait tout ce que l'Éternel a dit? Le veau d'or, le sabbat profané, les ordonnances méprisées et négligées, les messagers lapidés, le Christ rejeté et crucifié, en rendent témoignage. Lecteur chrétien, réjouissez-vous de ce que votre salut éternel ne repose pas sur vos vœux et sur vos résolutions, mais sur l'offrande du corps de Jésus-Christ faite une fois pour toutes. Hébreux 10, verset 10. Oui, c'est là notre joie. Elle ne peut nous faire défaut. La vie de résurrection de Christ coule dans les membres de son corps et produit en eux les résultats que ni les vœux ni les exigences de la loi n'auraient jamais pu effectuer. C'est lui qui est notre vie, et c'est lui qui est notre justice. Je ne terminerai pas ce chapitre sans faire mention d'un passage du Deutéronome qui pourrait offrir quelques difficultés en rapport avec le sujet que nous venons de traiter. Et l'Éternel entendit la voix de vos paroles lorsque vous me parliez, et l'Éternel me dit, « J'ai entendu la voix des paroles de ce peuple qu'ils t'ont dites. Tout ce qu'ils ont dit, ils l'ont bien dit. » Deutéronome 5, verset 28. Il pourrait sembler, d'après ces paroles, que l'Éternel approuvait que les enfants d'Israël s'engagent de cette façon. Mais si on lit l'ensemble du passage, depuis le verset 23 jusqu'au 27, on voit aussitôt qu'il n'est ici aucunement question de cet engagement, mais de la terreur du peuple à la suite et en conséquence de celui-ci. Ils ne pouvaient supporter ce qui était commandé. « Si, dirent-ils, nous entendons encore la voix de l'Éternel notre Dieu, nous mourrons. Car qui, de toute chair, a entendu comme nous la voix du Dieu vivant parlant du milieu du feu et est demeuré en vie? Toi, approche et écoute tout ce que dira l'Éternel notre Dieu, et toi, tu nous diras tout ce que l'Éternel notre Dieu t'aura dit, et nous l'écouterons et nous le pratiquerons. » C'était la confession de leur incapacité à rencontrer l'Éternel sous l'aspect effrayant de sa majesté et de sa sainteté.